C'était effectuer ce qu'on pourrait appeler, d'une façon un peu solennelle et barbare, la fondation de la parésia éthique, de la véridiction du dire vrai éthique. Pratique de véridiction, pratique de parésia, dont j'avais essayé de vous montrer combien elle était différente dans sa forme, dans ses objectifs, dans son domaine d'application, dans ses procédures aussi, de la parésia politique, même si, bien entendu, cette parésia morale, cette véridiction éthique se présente et se justifie en partie au moins par son utilité pour la cité, par le fait qu'elle est nécessaire au bon gouvernement et au salut de la cité. Bon, de cette parésia éthique, qui se trouve fondée, je pense, dans la pratique et par la pratique socratique, de cette parésia, l'apologie avait raconté et justifié la fondation, et le Laquès, vous vous souvenez, c'est ce que j'avais essayé de vous montrer la dernière fois, le Laquès avait donné un exemple remarquable de parésia éthique pour deux raisons. La première, c'est que cette parésia, se dire vrai, c'est à propos du courage que l'on en avait développé l'exemple. Et le thème du franc-parler, le thème du courage à dire la vérité, se trouvait ainsi lié au thème de la vérité du courage, et en tout cas à la question de savoir ce qu'est le courage en sa vérité. Vérité du courage, courage de dire la vérité, c'est cela qui était noué et lié dans, dans le Laquès. Et deuxièmement, vous vous souvenez que dans ce même Laquès, on avait trouvé un autre lien, une autre relation également forte, également essentielle, je crois, qui est le rapport entre la parésia, le franc-parler, l'usage du franc-parler, et le principe d'avoir à s'appliquer à soi-même, à se soucier de soi, le principe de l'épiméléia et autres. Donc, si vous voulez, d'une part, le lien, le cercle, vérité du courage, courage de la vérité, et d'autre part, le lien, l'appartenance de la pratique de la parésia au grand thème du souci de soi-même. Bon, dernier point que j'avais très rapidement soulevé la fois dernière, c'était celui-ci. Et qu'il me semblait que l'on pouvait faire un certain rapprochement entre ce dialogue du Laquès dont nous parlions donc, et puis le dialogue de l'Alcibiade que j'avais évoqué l'année précédente, je crois. Bien sûr, entre le Laquès et l'Alcibiade, de grandes différences visibles, manifestes, dans la dramaturgie du dialogue, si vous voulez, dans les deux aspects essentiels de la dramaturgie de ces deux dialogues, l'aspect, si vous voulez, enfin la dramaturgie sociale, dans un cas, le Laquès, Socrate, fait usage de son franc-parler et du courage qu'il y a à pratiquer le franc-parler, il en fait usage à l'égard d'adultes, de vieillards presque, d'hommes respectables, honorables, importants dans la cité, qui effectivement ont donné eux-mêmes témoignage de leur valeur, de leur vaillance, de leur courage, mais ne sont pas capables d'en rendre compte. Et dans l'autre cas, vous vous souvenez, l'Alcibiade, c'est au contraire un jeune homme que Socrate adresse sa parésia, son franc-parler, un jeune homme qui justement n'a pas encore fait preuve de toutes les qualités qui sont pourtant requises s'il veut honorer son ambition qui est de régir Athènes. Et si cette dramaturgie, par cet aspect, et si la dramaturgie des deux dialogues est différente, elle est aussi différente dans son terme, dans sa fin, non pas simplement dans son point de départ et son cadre social, mais dans son résultat philosophique, puisque, vous vous souvenez, dans le Laquès, on arrive à ce constat que ce qu'est le courage, on ne le sait pas, et nul ne peut le dire, alors qu'au contraire, vous savez que l'Alcibiade se termine sur la découverte et la position de l'âme comme réalité à laquelle nous devons porter notre attention. Seulement, malgré ces différences, je crois qu'il y a un certain nombre de points communs. Ou si vous voulez encore que la proximité de ces deux dialogues permet de découvrir quelque chose qui est assez important pour non seulement la thématique socratique, mais je pense aussi pour toute la philosophie occidentale. En effet, dans ces deux dialogues, il y a au moins ceci de commun. C'est que Socrate, usant de sa parésia, soit à l'égard de ces hommes respectables et honorables que sont Laquès et Nicias, soit à l'égard de cet adolescent désirable qui est Alcibiade, de toute façon, la parésia de Socrate sert dans un cas comme dans l'autre, dans le Laquès comme dans l'Alcibiade. Cette parésia sert à quoi? Eh bien, elle sert à demander aux interlocuteurs, Nicias Laquès d'une part, Alcibiade de l'autre, leur demande quoi? Eh bien, s'ils sont capables de rendre compte d'eux-mêmes, de donner raison d'eux-mêmes. Didonai log. Et, d'autre part, cette parésia, qui sert à demander aux interlocuteurs de rendre compte d'eux-mêmes, doit les conduire, et les conduit effectivement, à la découverte qu'ils sont bien obligés de reconnaître eux-mêmes, qu'ils ont à se soucier d'eux-mêmes. Enfin, troisième point commun entre ces deux dialogues, c'est que dans cette conduction vers le souci de soi-même, ou dans cette découverte d'avoir à se soucier de soi-même et dans les conséquences qui en déroulent, Socrate apparaît comme celui qui est capable, en se souciant des autres, de leur apprendre à se soucier d'eux-mêmes. Eh bien, cette proximité de ces deux dialogues, malgré la différence dramaturgique que l'on peut trouver entre les deux, la proximité de ces deux dialogues, je crois, permet de saisir le point d'enracinement commun à deux développements différents dans l'histoire de la philosophie occidentale. Très schématiquement, on peut dire ceci. D'une part, l'Alcibiade, vous vous en souvenez peut-être. L'Alcibiade, à partir de ce principe qu'il faut rendre compte de soi-même, l'Alcibiade procède, grâce à la parésia socratique, à la découverte et à l'instauration de soi-même, comme quoi? Eh bien, comme réalité ontologiquement distincte du corps, et cette réalité ontologiquement distincte du corps, c'est ce qui est désigné très explicitement comme l'âme, comme la psyché. Vous vous souvenez comment, dans l'Alcibiade, Socrate interrogeait son interlocuteur en lui demandant « Bon, très bien, tu viens d'admettre qu'il faut t'occuper de toi-même, mais qu'est-ce que ça veut dire s'occuper de soi-même et quelle est cette chose dont il faut s'occuper ?» Et là, Socrate, procédant à un certain nombre de distinctions, montrait à Alcibiade que ce dont il devait s'occuper, c'était cette psyché, et on voyait que cette instauration de la psyché comme étant la réalité ontologiquement distincte du corps dont il fallait s'occuper, cette instauration était corrélative, vous vous en souvenez peut-être, corrélative d'un mode de connaissance de soi qui avait la forme de la contemplation de l'âme par elle-même et de la reconnaissance par elle-même de son mode d'être. Souvenez-vous de tous ces passages où Socrate expliquait que l'âme doit se regarder elle-même, qu'elle est comme un œil qui, cherchant à se voir, serait obligé de regarder dans la pupille d'un autre œil pour s'apercevoir elle-même. C'est de la même façon, dit-il, qu'en contemplant la réalité divine, nous pouvons saisir ce qu'il y a de divin dans notre âme propre. Et ainsi, cette instauration de soi-même, comme réalité ontologiquement distincte du corps sous forme de la psyché, d'une psyché qui a la possibilité et qui a le devoir éthique de se contempler elle-même, eh bien, cette instauration de soi-même sous forme de la psyché donne lieu à un mode de dire vrai, de véridiction, qui a pour rôle et pour fin, eh bien, de reconduire cette âme jusqu'au mode d'être et jusqu'au monde qui sont le sien. Cette véridiction socratique que l'on voit se développer dans l'Alcibiade, à partir de ce thème fondamental, mais récurrent et commun, du souci de soi, cette véridiction socratique, vous voyez, désigne, et jusqu'à un certain point circonscrit, ce qui sera le lieu du discours de la métaphysique, lorsque ce discours de la métaphysique aura à dire à l'homme ce qu'il en est de son être et ce qui, sur ce fondement ontologique de l'être de l'homme, découle quant à l'éthique et aux règles de conduite. En revanche, dans le Laquès, à partir d'un même point commun, rendre compte de soi-même et prendre souci de soi, dans le Laquès, on voit l'instauration de soi-même se faire sur un tout autre mode, non pas du tout sur le mode de la découverte d'une psyché comme réalité ontologiquement distincte du corps. Vous vous souvenez qu'on voit l'instauration de soi-même comme quoi? Eh bien, comme manière d'être et manière de faire. Comme manière d'être et manière de faire, dont c'est dit explicitement dans le Laquès, il s'agit de rendre compte tout au long de son existence. La manière dont on vit, la manière dont on a vécu, c'est de cela qu'il faut rendre compte. Et c'est cela qui se donne comme l'objectif même de cette entreprise de reddition de comptes, c'est-à-dire que la reddition de comptes de soi-même, qui dans l'Alcibiade nous conduisait à cette réalité ontologiquement distincte qui est le psyché, dans l'Alcibiade nous conduit à tout autre chose et nous conduit au bios, à la vie, à l'existence et à la manière dont on mène cette existence. Cette instauration de soi-même, non plus comme psyché, mais comme bios, non plus comme âme, mais comme vie et comme mode de vie, eh bien cette instauration, elle est corrélative d'un mode de connaissance de soi qui, bien sûr, d'une certaine manière et fondamentalement, se rattache bien, relève bien au principe fondamental du « connais-toi toi-même » qui est justement évoqué si souvent dans l'Alcibiade. Mais cette connaissance de soi, ce gnotis et automne, qui vaut dans le Laques comme il vaut dans l'Alcibiade, qui vaut pour découvrir l'âme d'un côté, mais aussi pour mettre à jour le problème du bios de l'autre, bien cette connaissance de soi, elle a évidemment une forme très différente. Lorsque la reddition de compte de soi-même est indexée au problème du bios et de la vie, et non plus à la découverte de l'âme comme réalité ontologiquement distincte. Cette connaissance de soi, qui est évoquée, sinon mise en œuvre dans l'Alcibiade, cette connaissance de soi, elle n'a pas la forme de la contemplation de l'âme par elle-même au miroir de sa propre divinité. Ce mode de connaissance de soi, il prend la forme, les mots sont dans le laquais, vous vous souvenez, on les avait relevés, prennent la forme de l'épreuve, de l'examen, de l'exercice aussi concernant la manière de se conduire, et elle donne lieu à un mode de dire vrai qui ne circonscrit pas le lieu d'un discours métaphysique possible. Elle donne lieu à un mode de dire vrai qui a pour rôle et pour fin de donner à ce bios, à cette vie, à cette existence, une certaine forme dans un cas. On a donc un mode de reddition de compte de soi-même qui va à la psyché et qui, en allant à la psyché, désigne le lieu d'un discours métaphysique possible. Dans l'autre cas, on a une reddition de compte de soi-même, un rendre raison de soi-même qui se dirige vers le bios comme existence et mode d'existence, qu'il s'agit d'examiner et d'éprouver tout au long de cette existence même. Pourquoi ? Eh bien, pour pouvoir lui donner, grâce à un certain discours vrai, une certaine forme. Ce discours de reddition de compte de soi-même doit définir la figure visible que les humains doivent donner à leur vie. Ce dire vrai affronte non pas le risque métaphysique de placer au-dessus du corps ou en dehors du corps cette réalité autre qu'est l'âme. Se dire vrai maintenant, celui-là, affronte le risque et le danger de dire aux hommes ce qu'il leur faut de courage et ce qu'il leur en coûtera pour donner à leur vie un certain style. Courage du dire vrai quand il s'agit de découvrir l'âme, courage du dire vrai aussi quand il s'agit de donner à la vie forme et style. Eh bien, je crois qu'on a là, en confrontant l'Alcibiade d'une part et le Laques de l'autre, je crois qu'on en a le point de départ des deux grandes lignes de développement de la véridiction socratique à travers la philosophie occidentale. D'un côté, une ligne de développement qui, à partir de ce thème premier, fondamental, commun, du didonai logon, rendre compte de et de soi-même, une ligne va à l'être de l'âme, Alcibiade. L'autre va aux formes de l'existence, le Laques. L'une va vers la métaphysique de l'âme, Alcibiade. L'autre va vers une stylistique de l'existence, c'est le Laques. Et ce fameux rendre raison de soi, qui constitue l'objectif obstinément poursuivi par la parésia socratique, ce fameux rendre compte de soi-même, peut être entendu et a été entendu, et c'est son équivocité fondamentale qui va se marquer dans toute l'histoire de notre pensée. Eh bien, ce fameux rendre compte de soi-même peut être entendu soit comme la tâche d'avoir à trouver et à dire l'être de l'âme, ou encore comme la tâche et le travail qui consiste à donner style à l'existence. Dans cette dualité entre être de l'âme et style de l'existence se marque, je crois, quelque chose d'important pour la philosophie occidentale. Bien, si j'ai insisté sur ce point, sur cette proximité et cette divergence fondamentale qu'on peut saisir dans ces deux dialogues du Laqueis et de la Cibiade, c'est pour la raison suivante. C'est que j'essaie de retrouver ainsi, au moins dans certains de ces linéaments les plus anciens et les plus archaïques, l'histoire de ce qu'on pourrait appeler d'un mot l'esthétique de l'existence. C'est-à-dire, non pas tellement pour l'instant, les différentes formes possibles qui ont pu être prises par les arts de l'existence, ça demanderait toute une série évidemment d'études particulières. Mais ce que je voulais saisir, ce que je voulais essayer de vous montrer, et de me montrer à moi-même, comment l'existence, le bios, a été constitué dans la pensée grecque, et je crois par l'émergence et la fondation de la parésia socratique, comment l'existence et le bios a été constitué comme un objet esthétique, comme objet d'élaboration et de perception esthétique, le bios comme une œuvre belle. Et je crois qu'on a là l'ouverture d'un champ historique d'une grande richesse. Il y a bien sûr à faire l'histoire de la métaphysique de l'âme, il y a aussi à faire ce qui en est jusqu'à un certain point l'autre côté et aussi l'alternative, une histoire de la stylistique de l'existence ou encore une histoire de la vie comme beauté possible. Il me semble que tout cet aspect de l'histoire de la subjectivité en tant qu'elle constitue la vie comme objet pour une forme esthétique, il me semble que cette histoire a été longtemps recouverte et dominée d'un côté bien sûr par ce qu'on pourrait appeler l'histoire de la métaphysique, l'histoire de la psyché, l'histoire de la manière dont on a fondé et établi l'ontologie de l'âme. Elle a été aussi cette étude possible de l'existence comme forme belle, il me semble qu'elle a été recouverte aussi par l'étude privilégiée de ces formes esthétiques qui ont été conçues pour donner forme aux choses, aux substances, aux couleurs, à l'espace, à la lumière, aux sons et aux mots. Mais après tout, il faut bien se souvenir que pour l'homme, sa manière d'être et de se conduire, l'aspect que son existence fait apparaître aux yeux des autres, mais aussi impropre, la trace également que cette existence peut laisser et laissera dans le souvenir des autres après sa mort, eh bien, pour l'homme, cette manière d'être, cet aspect, cette trace ont été un objet de préoccupation esthétique. Ils ont suscité pour lui un souci de beauté, d'éclat et de perfection. Un travail continu et continuellement renouvelé de mise en forme, c'est ceci au moins autant que la forme que ces mêmes hommes ont essayé de donner au dieu, au temple ou à la chanson des mots. Cette esthétique de l'existence est, je crois, un objet historique essentiel qu'il ne faut pas oublier au profit soit d'une métaphysique de l'âme, soit d'une esthétique des choses et des mots. Alors, en articulant ainsi les rudiments de cette histoire sur les dialogues socratiques, et en essayant de retrouver là, dans les dialogues socratiques, le point de départ de ce que j'appelle l'esthétique de l'existence, il est bien entendu, et là, il faut que les choses soient claires, je ne prétends pas du tout que ce souci de la belle existence soit une invention socratique ou une invention de la pensée ou de la philosophie grecque au tournant du 5e et du 4e siècle. Ce serait tout à fait aberrant d'attendre ce moment-là et de fixer si tard l'instant où a émergé le souci d'une existence belle. Ce serait tout à fait aberrant de citer si tard quand on songe que ce souci d'une existence belle est apparu comme un thème déjà tout à fait dominant, que ce soit chez Homère ou que ce soit encore chez Pindare. Mais ce que je voudrais ressaisir, en me plaçant à ce moment socratique de la fin du 5e siècle, ce que je voulais ressaisir, c'est le moment où s'est établi un certain rapport entre ce souci sans doute archaïque, ancien, traditionnel dans la culture grecque d'une existence belle et d'une existence belle, d'une existence éclatante, d'une existence mémorable, etc. Donc, ressaisir le moment où s'est établi un rapport entre ce souci de l'existence belle et la préoccupation du dire vrai. Plus précisément, ce que je voudrais ressaisir, c'est comment le dire vrai, dans cette modalité éthique qui apparaît avec Socrate au tout début de la philosophie occidentale, comment se dire vrai a interféré avec le principe de l'existence comme œuvre à façonner dans toute sa perfection possible. Comment le souci de soi, qui avait été longtemps avant Socrate et dans la tradition grecque, commandé par le principe d'une existence éclatante et mémorable, comment ce principe du souci de soi commandé par l'existence éclatante et mémorable a été non pas remplacé, mais repris, infléchi, modifié, réélaboré par le principe du dire vrai auquel on doit se confronter courageusement. Comment se sont combinés l'objectif d'une beauté de l'existence et la tâche de rendre compte de soi-même dans le jeu de la vérité. L'art de l'existence et le discours vrai. La relation entre l'existence belle et la vraie vie, la vie dans la vérité, la vie pour la vérité. C'est un peu cela que je voulais essayer de ressaisir. L'émergence de la vraie vie dans le principe et la forme du dire vrai aux autres, du dire vrai à soi-même, du dire vrai sur soi-même et du dire vrai sur les autres. Vraie vie et jeu du dire vrai, c'est cela qui est un petit peu le thème, le problème que j'aurais voulu étudier. Ce problème, ce thème des rapports entre le dire vrai et l'existence belle, ou encore, si vous voulez, d'un mot, ce problème de la vraie vie, demanderait évidemment toute une série d'études, mais là encore, pardon de me plaindre une fois de plus, il est évident que c'est des choses, d'une part, que je n'ai pas encore analysées moi-même, qui serait intéressant d'étudier en groupe, en séminaire, etc., de pouvoir discuter. Je ne suis pas capable actuellement, peut-être ça viendra un jour, peut-être ça ne viendra jamais, de vous faire un cours en forme sur ce thème de la vraie vie. Alors, je voudrais simplement vous en donner quelques esquisses comme ça et quelques linéaments. S'il y en a parmi vous qui s'intéressent à ce problème, eh bien, qu'ils l'étudient et qu'ils l'étudient de plus près. Bon, la seconde remarque que je voudrais faire à propos de cette émergence de la question de la vraie vie et de l'esthétique de l'existence, c'est ceci. C'est que j'ai essayé donc de retrouver avec Socrate le moment où l'exigence du dire vrai et le principe de la beauté de l'existence ont été noués dans le souci de soi. J'ai essayé de montrer aussi comment, à partir de là, pouvait se dessiner deux développements possibles, celui d'une métaphysique de l'âme et celui d'une esthétique de la vie. Je ne prétends pas du tout, et c'est là la seconde remarque que je voudrais faire, qu'il y a comme une incompatibilité ou une insurmontable contradiction entre le thème d'une ontologie de l'âme et le thème d'une esthétique de l'existence. On peut même dire au contraire que ces deux thèmes ont été très réellement, très continuellement associés, pratiquement, il n'y a guère d'ontologie de l'âme qui n'ait été de fait associée à la définition ou à l'exigence d'un certain style de vie, d'une certaine forme d'existence. Et il n'y a guère non plus de style d'existence, de forme de vie qui n'ait été élaboré ou développé sans se référer d'une manière plus ou moins explicite à quelque chose comme une métaphysique de l'âme. Mais ce que je voudrais bien souligner, c'est que ce rapport entre métaphysique de l'âme et stylistique de l'existence, ce rapport n'est jamais un rapport nécessaire ou unique. Autrement dit, jamais la stylistique de l'âme ne serait rien de plus que la projection, l'application ou la conséquence ou la mise en pratique de quelque chose comme une métaphysique de l'âme. Entre les deux, les rapports sont souples et sont variables. La relation existe, mais elle est suffisamment souple pour que on puisse trouver toute une série de styles d'existence tout à fait différents qui sont associés à une seule et même métaphysique de l'âme. En gros, si vous voulez, en admettant, bon, à partir d'une vue schématique et tout à fait en survol, en admettant qu'il y a une certaine constance dans la métaphysique de l'âme propre au christianisme, vous savez très bien que le christianisme a développé, dans le cadre de cette métaphysique de l'âme, des styles d'existence très différents. Des styles d'existence très différents, soit de manière simultanée, soit de façon successive. Vous savez très bien que dans le christianisme, plusieurs modes d'existence simultanés ont été définis. La vie de l'ascète n'est pas la vie de celui qui mène l'existence de tout le monde. La vie du laïc n'est pas la même que la vie du clerc. La vie du moine n'est pas la même que le clergé régulier, n'est pas la même que celle du clergé séculier, etc. Enfin, toute une série de différences, toute une série de modulations dans la stylistique de l'existence ou même de styles d'existence différents ont été rendus simultanément possibles à l'intérieur d'un cadre métaphysique qui est en somme le même. On peut trouver aussi d'ailleurs dans le christianisme, mais en référence toujours à cette métaphysique qui reste à peu près constante, des styles qui ont été successivement très différents. Le style de l'ascétisme chrétien au 4e ou 5e siècle de notre ère est très différent de l'ascétisme que vous allez trouver au 17e siècle par exemple. Donc, métaphysique relativement constante et pourtant une stylistique d'existence qui varie. Mais vous pouvez aussi trouver l'inverse, c'est-à-dire que vous pouvez trouver des métaphysiques de l'âme bien différentes qui servent ou de support ou de référence, ou disons de cadre théorique, à des styles d'existence qui, eux, restent relativement stables. On pourrait prendre, par exemple, l'histoire du stoïcisme de cette manière-là, voir comment le stoïcisme, depuis la période hellénistique, ou en tout cas depuis la période romaine, jusque tard, dans le XVIIe siècle européen, comment le stoïcisme a défini un certain style d'existence, finalement assez constant, malgré un certain nombre de modifications de détails. Or, ce stoïcisme, vous le trouvez associé, vous le trouvez se développer à l'intérieur, tantôt d'un monothéisme rationaliste à la manière du stoïcisme de l'époque impériale, vous pouvez le trouver associé à des formes de panthéisme, vous pouvez le trouver aussi associé à ce qu'on peut appeler le christianisme à la fois humaniste et universaliste du XVIIe siècle. Donc, si vous voulez, entre les métaphysiques de l'âme, les philosophies de l'âme et les stylistiques de l'existence, vous avez un rapport qui peut toujours être analysé, mais qui n'est jamais un rapport constant et qui implique en fait des variations possibles d'un côté comme de l'autre. Bon. Eh bien, dans ce cadre général et autour de ce thème de la vraie vie, de la stylistique de l'existence, de la recherche d'une existence belle dans la forme de la vérité et dans la pratique du dire vrai, eh bien, je voudrais, à titre d'exemple, et sans encore du tout savoir jusqu'où je mènerai cela, si ça va durer jusqu'à la fin de l'année ou si je m'arrêterai, je voudrais prendre l'exemple du cynisme. Du cynisme. Je prends l'exemple du cynisme pour la raison essentielle que voici. Et qu'il me semble que dans le cynisme, dans la pratique cynique, on voit très fortement articuler l'une sur l'autre, d'une part, l'exigence d'une forme de vie, extrêmement typée, avec des règles ou des conditions ou des modes, comme vous voulez, très caractérisés, très bien définis. Donc, d'un côté, vous trouvez cette exigence d'une forme de vie, et liée à cette exigence d'une forme de vie, vous trouvez le principe du dire vrai sans honte et sans crainte, du dire vrai illimité et courageux, du dire vrai qui pousse son courage et sa hardiesse jusqu'à se retourner dans l'intolérable insolence. Cette articulation du dire vrai sur le mode de vie, ce lien fondamental, essentiel dans le cynisme, entre vivre d'une certaine manière et se vouer à dire vrai, eh bien, cette articulation, elle est d'autant plus remarquable dans le cynisme qu'elle se fait en quelque sorte immédiatement, sans médiation doctrinale, ou en tout cas à l'intérieur d'un cadre théorique assez rudimentaire. Là encore, il va falloir préciser tout ça. Ce que je vous donne actuellement, c'est un simple survol, une simple indication des problèmes. Et en fait, il y a bien un certain cadre théorique à la pratique cynique, mais il est évident que ce cadre théorique est infiniment moins important, moins développé, moins essentiel dans la pratique cynique qu'il pouvait être dans le platonisme, bien sûr, ou même dans le stoïcisme ou l'épicurisme. Bon, on reviendra sur tout ça. Pour l'instant, je voudrais simplement souligner, pour justifier le fait que je m'intéresse au cynisme, je voudrais souligner quelques traits qui marquent le cynisme et qui le distinguent d'une manière radicale, soit de la pratique socratique, dont pourtant il s'est réclamé bien souvent, soit encore des mouvements philosophiques dans lesquels le mode de vie était pourtant très important. Le cynisme apparaît donc une forme de philosophie dans laquelle mode de vie et dire vrai sont directement, immédiatement liés l'un à l'autre. Comment ceci se manifeste-t-il ? Eh bien, premièrement, le cynique, et là je ne parle pour l'instant que du cynisme dans sa forme ancienne, tel qu'il peut être attesté dans les textes de la période hellénistique et romaine, c'est-à-dire dans Diogène Laërce, c'est-à-dire dans Dion Chrysostome, jusqu'à un certain point dans Épictète, et également dans ces textes satiriques ou critiques qui ont été écrits par Lucien à la fin du second siècle ou par l'empereur Julien dans sa polémique contre les cyniques. Eh bien, à travers ces textes, qu'est-ce qu'on peut voir ? Eh bien, on peut voir que le cynique, il est constamment caractérisé comme l'homme de la parésia, comme l'homme du dire vrai. Bien sûr, le terme de parésia n'est pas réservé au cynique. Il ne désigne pas constamment et exclusivement les cyniques. On le trouve très souvent utilisé pour désigner bien d'autres formes de franc-parler philosophique, de paroles libres et véridiques. Souvenez-vous par exemple la manière dont Arien, présentant, préfaçant les entretiens d'Épictète, dit que l'on va pouvoir, en lisant ces entretiens, comprendre ce qu'est la pensée et la parésia d'Épictète, c'est-à-dire la manière dont, enfin, ce qu'il pensait et la manière dont il librement l'exprimait. Bon, donc le mot de parisien n'est évidemment pas réservé au cynique, mais il n'en demeure pas moins que, avec sa signification polyvalente, l'ambiguïté de sa valeur, franc-parler mais aussi insolence, eh bien le mot de parisien est très constamment appliqué au cynique. Le portrait du cynique comporte pratiquement toujours la mention de la parésia. La parésia, le franc-parler, figure en première place au blason du cynique et du cynisme. Exemple, vous trouvez dans Diogène Laërce, livre 6 de la vie des philosophes, chapitre 2, paragraphe 69, cette anecdote parmi bien d'autres qui sont attribuées à Diogène, enfin ces éléments de dialogue attribués à Diogène. Un jour, on demandait à Diogène, alors écoutez bien, on lui demandait ce qu'il pouvait y avoir de plus beau chez les hommes, to kaliston en tois anthropos, ce qu'il y a de plus beau. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau chez les hommes, réponse, la parésia, le franc-parler. Vous voyez comment le franc-parler est la beauté. Le thème de la beauté de l'existence, de la forme la plus belle possible à donner à son existence et l'exercice de la parésia sont directement liés. Autre exemple de cette présence de la parésia au blason du cynisme, Épictète, au livre 3 des entretiens, dans ce fameux chapitre, dans ce fameux entretien 22, qui est le portrait du cynique. Vous savez que dans ce texte, Épictète, qui n'est pas lui-même cynique, donne du cynisme un portrait extrêmement favorable et jusqu'à un certain point proche de lui-même. C'est une sorte de passage à les limites de sa propre philosophie, donc passage à l'ascétisme radical. Il ne faut bien entendu pas prendre ce portrait du vrai cynique par Épictète comme un véritable portrait de ce qu'était véritablement le cynique à l'époque d'Épictète, mais comme une sorte de définition idéale de ce que pourrait être le cynique ou de ce que pourrait être quelque sorte l'essence cynique d'une certaine forme d'ascétisme philosophique dont Épictète par ailleurs donnait lui-même dans sa vie et dans sa philosophie un certain nombre d'exemples. Donc, dans ce chapitre, dans cet entretien 22 du livre 3, au paragraphe 25, Épictète explique que le rôle du cynique, c'est d'exercer la fonction d'espion, d'éclaireur, et il emploie le mot kataskopos, qui est un mot qui a un sens précis dans le vocabulaire militaire. Vous savez, c'est ces gens qu'on envoie un petit peu en avant de l'armée pour regarder aussi discrètement que possible ce que fait l'ennemi. Et c'est bien cette métaphore que Épictète utilise ici, puisqu'il dit que le cynique est envoyé donc comme éclaireur en avant, au-delà du front de l'humanité, il est envoyé pour déterminer ce qui, dans les choses du monde, peut être favorable à l'homme ou peut lui être hostile. Où sont les armées ennemies? Et où sont les points d'appui ou les aides que l'on pourra trouver, rencontrer, dont on pourra bénéficier dans notre lutte? C'est cela la fonction du cynique. Et c'est pour cela, dit-il, que le cynique, envoyé en éclaireur, eh bien, ne pourra avoir ni abri, ni foyer, ni même patrie. Il est l'homme de l'errance, il est l'homme de la galopade en avant de l'humanité. Et après cette errance, après cette galopade en avant de l'humanité, le cynique doit revenir, après avoir bien observé et fait, accompli sa tâche de cataskopos, il reviendra pourquoi? Pour annoncer la vérité. Apangeglai talet. Annoncer les choses vraies sans, ajoute Épictète, se laisser paralyser par la crainte. Nous avons là la définition même de la paralysia comme exercice du dire vrai que l'on annonce aux hommes sans se laisser jamais impressionner par la crainte. Autre série de témoignages qui montre bien jusqu'à quel point le cynisme et la pratique de la parésia étaient associés, au point qu'il n'était impossible de décrire un cynique sans se référer à sa pratique de la parésia. Ces exemples, je les prendrai maintenant chez Lucien. Lucien, qui, vous savez, a polémiqué très violemment contre les cyniques, en a donné à plusieurs reprises des portraits extrêmement sévères, comme par exemple dans le portrait qu'il donne de Pérégrinus, on y reviendra plus loin. Il en a fait la satire aussi dans les nombreux textes qu'il a consacrés à la critique de la philosophie. Et l'un d'entre eux est ce fameux marché aux vies, Bion Pratis, dans lequel Lucien raconte d'une façon plaisante comment sur le marché les différents philosophes viennent pour vendre des formes de vie. Et un des premiers, je crois, qui apparaît, sans doute le premier, c'est Diogène, qui vient vendre la vie cynique et la proposer pour pas très cher, c'est pour 2 oboles. Et il se présente en disant qu'il est Alepegas kai Paresias prophétès, il est le prophète de la vérité et de la Paris, de la vérité et de la franchise. Je vous disais que Lucien avait multiplié ses attaques contre les cyniques, mais il y a au moins un texte dans Lucien qui est favorable aux cyniques, ou du moins à un certain personnage qui a représenté le cynisme à Athènes au second siècle, et ce personnage c'était Démonax. Et vous trouvez un texte de Lucien qui est l'éloge de Démonax. Et là aussi, vous voyez très clairement comment ce cynique, ce bon cynique, ce cynique qui présente du cynisme les seules formes valables et acceptables, apparaît lui aussi comme l'homme qui dit la vérité, comme l'homme de la parésia. C'est dit explicitement au début du portrait de Démonax, quand Lucien raconte que dès son enfance, Démonax s'est senti mu par un mouvement naturel vers la philosophie. Là, nous y reviendrons, c'est tout le problème de la naturalité de la vie philosophique, donc laissons cela. Il s'est senti mu naturellement vers la philosophie, et ainsi mu vers la philosophie, par la philosophie.
Il y a à la liberté et au franc-parler. Et à partir de là, Lucien rappelle que cette parésia, ce franc-parler et cette liberté ont attiré à Démonax d'une haine aussi grande que celle à laquelle avait pu se heurter Socrate, quand lui aussi, Socrate, avait dans l'Athènes du 5e siècle pratiqué sa parésia. Il a eu lui aussi Démonax, son Mélétos et son Anitos, il a été dénoncé. Il a été dénoncé, il a été accusé d'impiété. Et Lucien rapproche le procès d'impiété fait à Socrate du procès d'impiété qui a été fait récemment à Démonax. Et sur quoi porter exactement ce procès d'impiété? C'est intéressant, car vous allez voir que la parésia joue un rôle très précis. On aurait reproché à Démonax, si l'on en croit Lucien, on lui aurait reproché, premièrement, de n'avoir pas sacrifié à Athéna, et
d'avoir refusé d'être initié au mystère d'Éleusis. Traîné devant les tribunaux sous ce double chef d'inculpation, Démonax répond, il a eu plus de chance de Socrate, il s'en est tiré, mais la réponse, telle du moins que nous la rapporte Lucien, est très intéressante en ce qui concerne ce qu'il dit à propos de son refus d'être initié au mystère d'Éleusis. Il dit « Bien sûr que j'ai refusé d'être initié au mystère d'Éleusis, bien sûr, parce que de deux choses l'une, dit Démonax, ou aurait dit Démonax, à en croire Lucien, de deux choses l'une, ou les mystères sont mauvais, et ce qui se passe dans ces mystères d'Éleusis, c'est mal. Et à ce moment-là, il faut bien le dire publiquement, pour en détourner tous ceux qui ne sont pas encore initiés et qui auraient la fâcheuse idée ou l'envie néfaste de se faire à leur tour initier. Ou bien, les mystères sont bons, ce qui s'y passe est bien, et il faut donc y attirer autant que possible tous les gens que l'on peut convaincre. De toute façon, dans un cas et dans l'autre, dire la vérité, dire à tous la vérité sur les mystères d'Éleusis, qu'ils soient bons ou qu'ils ne soient pas bons, fait absolument partie de la fonction et du rôle du philosophe. Il avait à le dire, il avait à le proclamer, il avait à détourner, ou au contraire à attirer vers les mystères d'Éleusis, il avait à le faire, dit le texte, hypo philanthropias, par amour de l'humanité. Son lien à l'humanité, sa fonction de bienfaiteur de l'humanité, impliquait une parésia, une liberté de parole qui impliquait qu'il révèle toute vérité possible à propos des mystères d'Éleusis. Il ne voulait donc pas se faire initier lui-même, car s'il avait été initié, il aurait été obligé de s'engager à se taire, et il ne peut pas s'engager à se taire, lui qui est cynique, c'est-à-dire lui qui est l'homme de la parésia. Donc vous voyez, à travers toute cette série de textes, on pourrait en citer des dizaines et des dizaines d'autres, le cynique apparaît donc bien comme celui qui est prophétesse par Ésias, le prophète du franc-parler. Seulement, et c'est là un autre trait qui est important et qu'on trouve constamment à propos des cyniques et de leur parésia, c'est que cette parésia est liée directement à un certain mode de vie, et qu'elle est liée, cette parésia est liée à un mode de vie d'une façon qui est particulière et qui mérite, je crois, d'être regardée d'un peu près. Vous vous souvenez que dans le Laques, on avait bien vu que la parésia de Socrate, son courage, sa hardiesse à dire le vrai, ce courage de Socrate qui l'autorisait à parler très librement, même à des gens aussi honorables, vieux, respectables, courageux, honorés que Nicias et Laques, bien, cette parésia, Socrate n'y était autorisé au fond que dans la mesure où il avait donné dans sa vie un certain nombre de gages et de garanties. Vous vous souvenez très bien ce que disait Laques lorsque, invité à se soumettre à l'examen de Socrate, il disait, moi, vous savez, les logoi, il y en a quelques-uns que j'aime et d'autres que je n'aime pas, tout ceci dépend de quoi ? D'une certaine harmonie, d'une certaine homophonie entre ce que dit la personne qui parle et la manière dont il vit. Il me semble. Alors, on a là, si vous voulez, bien le problème, l'émergence de ce problème du dire vrai dans son rapport avec la vie même de celui qui parle. Moi, il me semble que le rapport entre dire vrai et mode de vie chez les cyniques entre bien d'une certaine façon dans le cadre général de cette homophonie entre le dire et le vivre qui était désignée dans le Laques. Mais je crois qu'à l'intérieur de ce cadre, le rapport entre dire vrai et façon de vivre et chez les cyniques, autrement plus compliqué et plus précis. D'abord, pour la raison que voici, c'est que dans le cynisme, le mode de vie, ce n'est pas simplement la vie qui montre et manifeste un certain nombre de vertus, dont Socrate avait d'ailleurs porté témoignage pour lui-même, comme la tempérance, le courage, la sagesse, etc. Le mode de vie,
qui est impliqué, qui est supposé, qui sert de cadre, de support, de justification aussi à la parésia. Ce mode de vie se caractérise par des formes extrêmement précises et codées de comportement, des formes extrêmement reconnaissables. Lorsque, bon, tardivement, l'empereur Julien s'en prendra aux cyniques en général et à un certain cynique appelé Héracléios, qui avait abusé de son rôle et de sa vocation, Julien l'interpellera en lui disant « Mais qu'est-ce qui te vaut donc le bâton de Diogène et sa parésia ?» Parésia et bâton sont ainsi liés ensemble. Le cynique use de la parésia et il porte le bâton. En fait, ce bâton, dans le discours contre Héracléios, il n'a qu'un élément d'un ensemble qui est bien connu, dont on a mis le témoignage dans l'Antiquité. Le cynique, c'est l'homme au bâton, mais c'est l'homme à la besace, c'est l'homme au manteau, c'est l'homme aux sandales ou aux pieds nus, c'est l'homme à la barbe hirsute, c'est l'homme sale, c'est l'homme aussi qui erre, c'est l'homme qui manque toute insertion, il n'a ni maison, ni famille, ni foyer, ni patrie, souvenez-vous du texte que je vous citais, c'est l'homme de la mendicité aussi. Et que ce genre-là de vie soit très précisément, fasse absolument corps avec la philosophie cynique, que ça ne soit pas simplement un ornement, on en a bien des témoignages, par exemple dans Diogène Laërce, le mariage, les noces, paradoxale et insultante entre Cratès et Hipparchia relève de cela. Hipparchia voulait absolument épouser Cratès, philosophe cynique, qui, comme philosophe cynique, ne voulait pas de mariage. Alors Cratès, excédé par les assiduités d'Hipparchia, qui avait dit qu'il se suiciderait s'il ne l'épouserait pas, eh bien Cratès se plante devant elle, se met tout nu et lui dit « Voilà ton mari, voilà ce qu'il possède, décide-toi ». Car tu ne seras pas ma femme si tu ne partages pas mon mode de vie. Le mode de vie, défini, dessiné avec les éléments que j'évoquais tout à l'heure, fait donc totalement partie de la pratique philosophique du cynique. Or, ce mode de vie n'a pas simplement pour rôle de correspondre en quelque sorte harmoniquement au discours et à la véridiction des cyniques. Il n'a pas simplement une fonction homophonique, comme celle qu'on avait pu voir dans le Laques, entre la vie de Socrate et l'usage de sa parésia. Le mode de vie, le bâton, la besace, la pauvreté, l'errance, la mendicité, etc., ils ont des fonctions très précises, ce mode de vie, il a des fonctions très précises par rapport à cette parésia et par rapport à ce dire vrai. Premièrement, il a des fonctions instrumentales. Il joue le rôle, ce mode de vie, de condition, de possibilité par rapport à dire vrai, par rapport au dire vrai. Je vous citais tout à l'heure le texte d'Épictète, où l'on voyait le cynique jouer le rôle de kataskopos, d'éclaireur, d'espion. Il faut en effet, si l'on veut être l'espion de l'humanité et revenir pour lui dire la vérité et pour lui dire franchement et courageusement tous les dangers auxquels elle risque de se heurter et là où sont ses véritables ennemis, il faut pour cela n'être attaché à rien. Il faut pour pouvoir jouer le rôle de diseur de vérité et d'éveilleur, il faut être libre de toute attache. Épictète le dit dans cet entretien 22 du livre 3, au paragraphe 69-70, le cynique ne peut pas avoir de famille, car au fond, c'est le genre humain qui est sa famille. Homme, c'est toute l'humanité qu'il a engendrée, tous les hommes qu'il a pour fils, toutes les femmes qu'il a pour fille. Non, pardon, c'est pas au paragraphe 69-70, c'est au paragraphe 80. Et au paragraphe 69-70, Épictète dit ceci, « Ne faut-il pas que le cynique demeure libre de tout ce qui pourrait le distraire, tout entier au service de Dieu, en mesure de se mêler aux hommes et sans être enchaîné par les devoirs privés ? Comment pourrait-il observer toutes ses obligations sans, et là je cite, sans détruire en lui le messager, l'éclaireur et le héros des dieux ? Pour être angelos, pour être l'ange, pour exercer cette fonction angélique, pour exercer cette fonction kataskopique d'espion et d'éclaireur, il faut bien qu'il soit libre de tout. Donc, le mode de vie et conditions de possibilité pour l'exercice de cette parésie. Deuxièmement, ce mode de vie joue également par rapport à la parésia un autre rôle. Non seulement condition de possibilité, mais il exerce une fonction de, pourrait dire, une fonction de réduction. Réduire toutes les obligations inutiles, toutes celles qui sont reçues d'ordinaire et acceptées par tout le monde, et qui se trouvent n'être fondées ni en nature, ni en raison. Et ce mode de vie, comme réduction de toutes les conventions inutiles et de toutes les opinions superflues, est évidemment une sorte de décapage général de l'existence et des opinions pour faire apparaître la vérité. C'est par exemple le fameux geste de Diogène qui a été répété tant de fois, dont l'anecdote a été répétée tant de fois dans l'Antiquité, de Diogène se masturbant sur la place publique en disant « Mais qu'est-ce, pourquoi vous en scandaliseriez-vous » puisque il s'agit dans la masturbation de la satisfaction d'un besoin qui est du même ordre que celui de la nourriture. Or, je mange en public, pourquoi est-ce que je ne satisferais pas ce besoin également en public? Donc, mode de vie qui a cette fonction réductrice par rapport aux conventions et aux croyances. Enfin et surtout, ce mode de vie propre aussi a par rapport à la vérité ce qu'on pourrait appeler un rôle d'épreuve, permet de faire apparaître dans leur nudité irréductible toutes les choses qui sont indispensables, mais les choses seulement qui sont indispensables. La vie fait apparaître dans son indépendance, dans sa liberté fondamentale, ce qu'est tout simplement, et par conséquent, ce que doit être la vie. Alors que toute la démarche socratique que l'on trouvait dans l'Alcibiade, vous vous souvenez, consistait à partir de ce souci de soi-même, à pouvoir définir dans sa séparation radicale ce qu'est l'être même de l'âme, là nous avons une opération inverse de réduction, si vous voulez, de réduction de la vie elle-même, réduction de la vie à elle-même, réduction de la vie à ce qu'elle est en vérité et que l'on fait ainsi apparaître dans le geste même de la vie cynique. Épictète 3, chapitre, entretien 22, paragraphe 48, le cynique dit dans ce texte « Je n'ai ni femme ni enfant, ni palais de gouverneur, je n'ai que la terre seule et le ciel et un vieux manteau. Qu'est-ce qui me manque? Ne suis-je pas sans chagrin et sans crainte? Ne suis-je pas libre ?» Donc vous le voyez, le cynisme ne se contente pas de coupler ou de faire se correspondre dans une harmonie ou dans une homophonie un certain type de discours et une vie qui serait conforme aux principes qui sont énoncés dans le discours. Le cynisme lie le mode de vie et la vérité sur un mode beaucoup plus serré, beaucoup plus précis. Il fait de la forme de l'existence une condition essentielle pour le dire vrai, il fait de la forme de l'existence la pratique réductrice qui va laisser place au dire vrai, il fait enfin de la forme de l'existence une façon de rendre visible dans les gestes, dans les corps, dans la manière de s'habiller, dans la manière de se conduire et de vivre, une façon de rendre visible la vérité elle-même. En somme, le cynisme fait de la vie, de l'existence, du bios, ce qu'on pourrait appeler une aliturgie, une manifestation de la vérité. Et je voudrais sur ce thème de la vie cynique, comme manifestation, comme geste même de la vérité, je voudrais vous citer un texte qui est tardif, mais qui est intéressant. Il est intéressant parce que d'une part, il montre la longue persistance du cynisme dans l'Antiquité et jusqu'à la fin même de l'Antiquité. Parce que également, il rend sensible les liens qui ont été si importants entre le cynisme et le christianisme. Et enfin, parce qu'il fait appel à un terme qui est particulièrement important. Ce texte, eh bien, on le trouve dans Grégoire de Nazianze. On le trouve dans Grégoire de Nazianze, au IVe siècle, dans l'homélie 25. Dans cette homélie, Grégoire de Nazianze, qui à ce moment-là est à Constantinople, fait l'éloge d'un certain Maxime, lequel Maxime était un
un chrétien d'origine égyptienne et qui, né dans une famille chrétienne, s'était pendant un certain temps retiré au désert et à qui sa grande réputation de sainteté, d'ascèse, avait valu d'être remarqué par l'évêque d'Alexandrie qui l'avait envoyé à Constantinople. Et Grégoire, qui était à ce moment-là diocésain de Constantinople, le reçoit. En fait, l'histoire tournera très mal et Maxime, devenu hérétique, sera condamné. Et il y aura des luttes violentes entre Grégoire et Maxime par la suite, peu importe. Dans cette homélie 25, Grégoire reçoit donc Maxime. Il le reçoit, cet homme venu d'Égypte, aux terres du monachisme et de l'ascétisme. Il le reçoit, lui, ce Maxime, qui a personnellement connu et pratiqué cette vie de l'ascèse. Il le reçoit et il en fait un éloge public. Et il le présente comme quoi ? Il le présente comme un héros philosophique. Il le présente comme un cynique, ou plutôt comme un vrai cynique. Et il dit très précisément ceci. Parlant de Maxime. Il déteste l'impiété des cyniques. On y reviendra plus tard quand on regardera le cynisme. Il y avait en effet tout un courant très, très dominant dans le cynisme, d'impiété ou en tout cas d'incrédulité et de scepticisme à l'égard des dieux et d'un certain nombre de pratiques religieuses. Bon, donc Grégoire dit à propos de Maxime, il déteste l'impiété du cynique et leur mépris de la divinité, mais... Il a pris des cyniques, il a pris la frugalité, semblable à un chien qui aboie contre les autres chiens. Et après avoir ainsi défini, caractérisé cet ascète chrétien comme un héros philosophique qui est un vrai cynique, qui a repris du cynisme ce qui en est le noyau important et valable, à savoir la frugalité, le mode de vie, indépendamment de toutes les fausses croyances ou fausses incrédulités, Grégoire de Nazianze continue en s'adressant cette fois directement à Maxime et il lui dit « Je te compare à un chien, la comparaison au chien » se réfère évidemment à cette assignation de cynisme, de vrai cynisme, dont Grégoire fait éloge à Maxime. Je te compare à un chien, non pas parce que tu es impudent, mais à cause de ta parésia, à cause de ta franchise. Non pas parce que tu es gourmand, mais parce que tu vis au jour le jour. Non pas parce que tu aboies, mais parce que tu montes la garde pour le salut des âmes. Et un peu plus loin, il ajoute... Tu es le meilleur et le plus parfait des philosophes, dit donc Grégoire de Nazianze à Maxime, tu es le meilleur et le plus parfait des philosophes, Marturon tes aletheias, étant le martyr, le témoin de la vérité. Bon. Alors bien sûr, ce mot de Marturon, le marturein, désigne ici non pas le martyr au sens que nous donnons d'ordinaire à ce terme, enfin il ne le désigne pas simplement et uniquement, c'est comme témoin de la vérité. Mais comme c'est le témoignage de la vérité qui est ici désigné, mais ce témoignage de la vérité, vous voyez bien que dans la bouche de Maxime, de Grégoire, il ne s'agit pas simplement du témoignage verbal de quelqu'un qui dirait la vérité. Il s'agit bien de quelqu'un qui, dans sa vie même, dans sa vie de chien, n'a pas cessé, depuis le moment où il a embrassé l'ascétisme jusqu'à maintenant, d'être... dans son corps, dans sa vie, dans ses gestes, dans sa frugalité, dans ses renoncements, dans son ascèse, d'être le témoin vivant de la vérité. Il a souffert, il a enduré, il s'est privé pour que la vérité prenne en quelque sorte corps dans sa propre vie, dans sa propre existence, prenne corps dans son corps. Cette notion, cette expression de marturon tes aletheias, être le témoin de la vérité. Cette expression est tardive, mais je crois qu'on peut la retenir pour caractériser, au fond, ce qui a été le cynisme pendant toute l'Antiquité. Et sans doute pour caractériser ce que sera cette espèce de sorte de cynisme que l'on peut trouver tout au long de l'histoire de l'Occident, à travers bien différents profils. Martyr de la vérité, entendu au sens de témoin de la vérité, mais témoin est témoignage qui est donné, manifesté, authentifié par une existence, une forme de vie, au sens le plus concret et le plus matériel du terme, un témoignage de vérité qui est donné par et dans le corps, l'habillement, le mode de comportement, la manière d'agir, de réagir, de se conduire. le corps même de la vérité est rendu visible, ou si vous voulez, il est aussi rendu risible dans un certain style de vie. La vie comme présence immédiate, éclatante et sauvage de la vérité, c'est cela qui est, je crois, manifesté dans le cynisme. Ou encore, la vérité comme discipline, comme ascèse et dépouillement de la vie. La vraie vie comme vie de vérité. Exercer dans sa vie et par sa vie le scandale de la vérité, c'est cela qui a été pratiqué par le cynisme depuis son émergence qu'on peut situer au IVe siècle dans la période hellénistique et qui va se poursuivre au moins jusqu'à la fin de l'Empire romain, et je voudrais vous le montrer bien au-delà, eh bien, exercer dans et par sa vie le scandale de la vérité, c'est cela qui est, je crois, au noyau du cynisme. Et c'est pourquoi il me semble qu'avec le cynisme, on a un point assez remarquable et qui mérite un peu d'attention si on veut faire l'histoire de la vérité et l'histoire des rapports de la vérité et du sujet. Bon. Voilà donc la justification de la raison pour laquelle je voudrais maintenant m'arrêter un peu à cette question du cynisme. Alors, la logique, la pédagogie, les règles de tout enseignement devraient m'amener à vous parler maintenant du cynisme tel que l'on peut essayer de le repérer, de le dégager dans les textes anciens, pour essayer ensuite de raconter, sinon son histoire, du moins quelques-uns de ces épisodes. Je vais faire en fait le contraire pour essayer de me justifier, de vous enfermer sans cesse dans la philosophie antique. Alors je vais faire un détour et tout à l'heure j'essaierai de vous montrer pourquoi et comment le cynisme n'est pas simplement, comme on l'imagine souvent, une figure un peu particulière, singulière et finalement oubliée dans la philosophie ancienne, mais comment le cynisme est une catégorie historique qui traverse sous des formes diverses, avec des objectifs variés, toute l'histoire occidentale. Il y a un cynisme qui fait corps avec l'histoire de la pensée, de l'existence et de la subjectivité occidentale. C'est un petit peu ce cynisme transhistorique que je voudrais évoquer dans l'heure qui vient. Et puis, la fois prochaine, alors, on reviendra à ce qu'on peut considérer comme le noyau historique du cynisme dans l'Antiquité. Bon, alors, ça nous de repos. Alors là, je vais vous demander votre indulgence. Ce que je vais vous proposer maintenant, ce n'est rien de plus qu'une promenade, un excursus, une errance. Ça serait, si vous voulez, imaginer que on puisse travailler en groupe, ou imaginer qu'on veuille écrire un livre sur le cynisme comme catégorie morale dans la culture occidentale, qu'est-ce qu'on ferait? Alors, je sais pas, j'aurais à projeter à l'avance une étude comme celle-là, voilà à peu près ce que je dirais. Bon, alors la prochaine fois, on reviendra au cynisme historique, à celui de l'Antiquité, mais là, comme ça, j'ai eu envie, m'étant un peu excité sur le cynisme au cours de ces dernières semaines, de vous proposer ceci. Bon, c'est certain que le cynisme apparaît assez volontiers comme une figure un peu anecdotique et pas simplement marginale dans la philosophie antique. Il y a à cela un certain nombre de raisons. D'une part, d'abord, bien sûr, la disqualification très forte sur laquelle on reviendra, qui a pesé sur le cynisme dans l'Antiquité même, ou en tout cas la série, l'attitude qui a fait que, à l'égard du cynisme, la philosophie instituée, institutionnelle, reconnue, a toujours eu une attitude ambiguë, essayant de distinguer dans le cynisme toute une série de pratiques qui étaient méprisées, condamnées, violemment critiquées, et puis un certain noyau, qui serait le noyau du cynisme, et qui, lui, aurait mérité d'être sauvé. Cette attitude à l'égard du cynisme a été fréquente dans l'Antiquité et a certainement beaucoup pesé pour la disqualification ultérieure du cynisme. Et puis, il y a aussi également cette autre raison, qui est que un certain nombre de philosophies anciennes ont transmis à la pensée occidentale des noyaux doctrinaux extrêmement forts et bien caractérisés, comme Platon, Aristote, jusqu'à un certain point le stoïcisme, mais encore c'est déjà beaucoup moins net, et ce n'est évidemment pas le cas, en tout cas pour le cynisme, pour la bonne raison que d'une part nous connaissons très peu les textes cyniques qui ont pourtant existé en assez grand nombre, et aussi parce que, semble-t-il, la charpente théorique du cynisme, même dans l'Antiquité, a été extrêmement rudimentaire. De sorte que la doctrine cynique a en quelque sorte disparu, mais est-ce que cela veut dire pour autant que le cynisme ne s'est pas un peu à la manière du stoïcisme, un peu à la manière de l'épicurisme, un peu et surtout à la manière du scepticisme, et là il faudra y revenir avec plus de détails, est-ce que le cynisme ne s'est pas transmis, ne s'est pas continué et poursuivi essentiellement comme une attitude, une manière d'être, et beaucoup plus que comme une doctrine. Donc ça serait à faire, on pourrait imaginer l'histoire du cynisme, non pas encore une fois comme doctrine, mais beaucoup plutôt comme attitude et manière d'être, ayant bien entendu ses justifications et tenant sur elle-même son propre discours justificatif et explicatif. De sorte que, de ce point de vue-là, il me semble qu'il serait possible de faire une histoire à travers les siècles, une histoire du cynisme depuis l'Antiquité jusqu'à nous. En ce qui concerne les travaux qui ont pu être faits sur cette longue histoire du cynisme, je dois dire qu'on est un petit peu démuni. Et autant que je sache, je ne vois guère que dans les textes allemands des références à ce problème du cynisme dans sa longue durée historique, et surtout du rapport des textes consacrés au rapport entre le cynisme, disons, moderne, le cynisme dans la pensée et la culture européenne moderne, et le cynisme ancien. Bon, là, il faut faire des recherches un peu plus précises. Pour l'instant, moi, je vois ceci dans les textes allemands. Premièrement, un texte de 1953 de Tillich, T-I-2-L-I-C-H, le texte s'appelle « Der Mut zum Sein », le courage d'être, le courage par rapport à l'être, qui est un texte dont vous voyez la référence d'une part à Nietzsche est évidente, volonté de puissance, courage d'être, réponse à Nietzsche, et en même temps, bien sûr, existentialisme, etc. Et dans ce texte, vous trouvez une distinction, je ne sais pas si elle apparaît pour la première fois là, en tout cas, elle y est explicite, la distinction entre ce qu'il appelle le cynismus et le zynismus. C'est-à-dire qu'il écrit « cynisme » en allemand, soit avec un K, soit avec un Z. Et il utilise le terme « cynismus » pour désigner le cynisme ancien, qu'il définit, qu'il caractérise comme étant la critique de la culture qui était contemporaine des cyniques sur la base de la nature et de la raison. Et puis, de ce cynisme, il fait dériver, mais avec des différences notables, considérables, le cynismus contemporain, le cynisme contemporain, dont il dit que c'est un courage d'être soi-même, un courage d'être soi-même non créateur. Dans un autre texte, Heinrich, Parménidès ou Yona en 1966 reprend aussi cette distinction entre cynismus et cynismus, et il consacre un chapitre qui est fort intéressant tout à fait au début de son livre, si j'ai bonne mémoire, sur le cynisme, la longue histoire du cynisme et encore une fois l'opposition entre le cynismus antique et le cynismus contemporain. Le cynismus antique serait, d'après lui, en réponse à la destruction de la cité, de la communauté politique de l'Antiquité classique, une forme d'affirmation de soi-même, affirmation de soi-même qui, ne pouvant plus prendre référence ni appui sur les structures politiques et communautaires de la vie ancienne, serait indexée, chercherait son repère et son fondement sur l'animalité. Affirmation de soi-même comme animal, c'est cela qui serait, d'après Heinrich, au noyau du cynismus antique. Et le cynismus contemporain, celui de l'Europe moderne, serait lui aussi, comme le cynismus antique, une affirmation de soi. Et là, il marque bien la filiation, ou du moins la continuité de l'expérience de la forme cynique, mais cette affirmation de soi, elle se ferait non pas par une indexation sur l'animalité, mais elle s'effectuerait en face de et par rapport à l'absurdité et l'absence universelle de signification. Troisième texte auquel on peut se référer, c'est le livre de Galen, dans Moral, qui s'appelle Moral und Supermoral, au premier chapitre, et où il définit le cynisme comme étant un individualisme, une affirmation du moi, Ich Betonung. Enfin, quatrième livre, mais que je ne connais pas, qu'on m'a signalé tout récemment, qui est paru l'an dernier en Allemagne chez Urkamp, de quelqu'un qui s'appelle Sloterdijk, Sloterdijk, et qui porte le nom, le terme, le titre, pardon, solennel, de Critique der zynischen Vernunft, critique de la raison cynique. Aucune des critiques de la raison ne nous sera épargnée, ni la pure, ni la dialectique, ni la politique, et donc maintenant la cynique. Critique de la raison cynique, c'est un livre en deux volumes sur lequel je ne sais rien. On m'a donné des avis, disons, divergents sur l'intérêt de ce livre. En tout cas, il est certain que vous trouvez dans la philosophie allemande contemporaine, depuis la guerre, toute une problématisation du cynisme dans ses formes anciennes et modernes, et ça serait sans doute quelque chose à étudier d'un peu près. Voir pourquoi ils ont posé ce problème et dans quels termes ils le posent. Il me semble, si je m'en tiens aux trois premiers textes que je vous ai cités, puisque je ne connais pas le quatrième, il me semble que ces interprétations, qui ont au moins de très grand intérêt de poser le problème du cynisme comme catégorie transhistorique, peuvent tout de même appeler un certain nombre de remarques. D'abord, il me semble que d'une façon très systématique, ils opposent, ces auteurs, un cynisme à valeur positive, ou à valeur plutôt positive, qui serait le cynisme ancien, et le cynisme à valeur négative, qui serait le cynisme moderne. Bien sûr, il faut, je pense à cela, faire valoir, en face de cela, faire valoir que le cynisme, même dans sa forme antique, a toujours été considéré, perçu dans la culture ancienne avec une très forte ambiguïté, je vous le rappelais tout à l'heure. Et puis, je crois que si l'on veut donner ces véritables dimensions au cynisme comme forme d'existence dans l'Europe chrétienne et dans l'Europe moderne, on ne peut pas porter simplement sur lui un jugement uniformément négatif. D'autre part, je crois que toutes ces analyses se bâtissent, enfin ces trois premières analyses, je ne parle pas de la quatrième, ces analyses se bâtissent sur l'hypothèse d'une discontinuité assez forte et bien marquée entre le cynisme ancien et le cynisme moderne, comme s'il n'y avait pas eu d'intermédiaire, comme si c'était deux formes plus ou moins apparentées sans doute, mais violemment affrontées. Alors que je crois qu'il y a eu une longue histoire du cynisme, histoire continue, qui implique bien entendu des formes diverses, des pratiques différentes, des styles d'existence modulés selon des schémas différents, mais qu'il y a, je crois qu'il est facile de montrer l'existence permanente de quelque chose qui peut apparaître comme le cynisme à travers toute la culture européenne. Enfin, et surtout, dans ces interprétations, que ce soit celle de Galen, que ce soit celle de Yona, ou que ce soit celle de Tietz. Le cynisme est toujours présenté comme une sorte d'individualisme, une sorte d'affirmation de soi, exaspération de l'existence particulière, de l'existence naturelle et animale, de l'existence en tout cas dans son extrême singularité, que ce soit par opposition ou en réaction avec la dislocation des structures sociales de l'Antiquité, ou que ce soit en face de l'absurdité du monde moderne. C'est en tout cas l'individu et l'individualisme qui seraient au noyau du cynisme, et je crois qu'en accent l'analyse du cynisme sur ce thème de l'individualisme, on risque de manquer ce qui, de mon point de vue, est une des dimensions fondamentales du cynisme, c'est-à-dire le problème de la mise en rapport, qui est, je crois, au noyau du cynisme, de la mise en rapport entre une forme d'existence et la manifestation de la vérité. La forme d'existence comme scandale vivant de la vérité. Il me semble que c'est cela qui est au cœur du cynisme, au moins autant que ce fameux individualisme qu'on a l'habitude de retrouver si souvent à propos de tout et de n'importe quoi. Bon, eh bien, si on acceptait, tout ça c'est de l'hypothèse, c'est du travail possible, si on acceptait de faire du cynisme, ou d'envisager en tout cas la longue histoire du cynisme à partir de ce thème de la vie comme scandale de la vérité, ou du style de vie, de la forme de vie, comme étant le lieu d'émergence de la vérité. Le bios comme aléturgie. Eh bien, il me semble que dans ce cas-là, on pourrait faire apparaître un certain nombre de choses et suivre un certain nombre de pistes. Il me semble que l'on verrait au moins trois facteurs, trois éléments qui ont pu, dans la longue histoire de l'Europe, soit transmettre, sous des formes encore une fois diverses, le schéma cynique, le mode cynique d'existence, dans l'Antiquité chrétienne d'abord et dans le monde moderne. Premièrement, premier support du transfert et de la pénétration du mode d'être cynique dans l'Europe chrétienne. Premier support, bien, ça a été bien entendu la culture chrétienne elle-même, les pratiques et les institutions de l'ascétisme chrétien. Je crois que là, dans l'ascétisme chrétien, on trouve ce qui a été pendant longtemps et pour des siècles le grand véhicule du mode d'être cynique à travers l'Europe. Que dans le christianisme ancien, vécu et mis en œuvre comme témoignage de la vérité elle-même, que l'ascète chrétien ait voulu donner corps à la vérité par ses pratiques mêmes d'ascèse, à la manière du cynique, on en a évidemment une série de témoignages qui sont tous convergents. Et d'ailleurs, cette proximité extrême entre la pratique du dépouillement cynique comme témoignage de la vérité, comme martyr de la vérité, avec l'ascèse chrétienne comme témoignage aussi de la vérité, même si c'est une autre vérité, de cette proximité, on a mille témoignages. Un des plus anciens se trouve justement dans Lucien, dont je vous parlais, à propos de Pérégrinus. Pérégrinus était un philosophe, enfin, cynique, dont Lucien raconte la mort théâtrale. Il s'était brûlé vif aux Jeux Olympiques, je crois. C'est un lieu public. Et à propos de cette mort, Lucien écrit un texte extrêmement violent où il raconte la vie de Pérégrinus et où il raconte que Pérégrinus, à un moment donné de sa vie, a été chrétien, qu'il a été chrétien et qu'il a repris à son compte et pratiqué tous les renoncements qui caractérisent la vie chrétienne, toutes ces choses auxquelles on renonce. Pourquoi ? Par fidélité et obéissance à celui que Lucien appelle le sophiste qui a été crucifié en Palestine. Et, Pérégrinus est donc un cynique qui est passé par le christianisme ou un chrétien qui est devenu cynique. En tout cas, l'interférence entre les deux formes de vie est assez proche pour que, aux yeux de quelqu'un comme Lucien, évidemment assez éloigné de ces problèmes-là, enfin assez hostile à toutes ces formes de pratiques, puisse les confondre sans trop de difficultés. C'est de la même façon que Julien, plus tard, dans sa critique des cyniques, montrera, soulignera la proximité qu'il y a entre la vie cynique et la vie chrétienne. Et il est remarquable que saint Augustin, par exemple, dans un texte que je voudrais vous citer, que saint Augustin évoque ce problème des cyniques, c'est dans un passage de la Cité de Dieu, livre 19, chapitre 19. C'est au tome 37, page 135 de l'édition de chez Desclées. Et il pose la question, est-ce que effectivement on peut admettre dans la communauté chrétienne et reconnaître comme chrétien quelqu'un qui mène le mode de vie cynique? Ce qui prouve que le mode de vie cynique était encore pratiqué, ce qui prouve que le mode de vie cynique était pratiqué jusque dans les communautés chrétiennes, ou en tout cas que ceux qui pratiquaient le mode de vie cynique souhaitaient chercher à s'intégrer aux communautés chrétiennes. Et saint Augustin dit ceci, « Il importe peu à cette cité qu'en professant la foi qui conduit à Dieu, l'on adopte tel ou tel genre de vie. Il n'importe donc pas aux philosophes eux-mêmes, quand ils se font chrétiens, de changer leur tenue et leur manière de vivre si elle n'a rien de contraire à la religion. Il s'agit pour eux de renoncer à leur fausse doctrine. » Donc la leçon de saint Augustin est claire. Du moment que la doctrine est la bonne, eh bien ma foi, on peut parfaitement accepter dans la communauté chrétienne quelqu'un qui mène la vie cynique, qui prend le costume cynique, qui vit comme un cynique. On trouverait, par exemple, dans Saint Jérôme, dans le Contre Jovinianus, livre 2, paragraphe 4, chapitre 14, vous trouvez quelque chose sur la mort sur Diogène et un éloge de Diogène, et il incite les chrétiens à n'être pas inférieurs à un philosophe comme Diogène. Bon. Qu'il y ait eu, au début du christianisme, une interférence très sensible entre la pratique cynique et l'ascèse chrétienne, il n'y a à cela évidemment rien de bien étonnant. Mais ce qu'il faut bien remarquer aussi, c'est que le mode de vie cynique a été, par l'intermédiaire bien sûr de l'ascèse chrétienne et du monachisme, transmis pendant très longtemps. Et même si les références explicites au cynisme, à la doctrine cynique, à la vie cynique, si le terme même de chien disparaît comme en référence au cynisme et au cynisme de Diogène, il faut bien se rappeler que beaucoup des thèmes, beaucoup des attitudes, beaucoup des formes de comportement qu'on avait pu observer chez les cyniques vont se retrouver dans de très nombreux mouvements spirituels du Moyen Âge. Après tout, les ordres mendiants, ces gens qui se dépouillant de tout, prenant le vêtement le plus simple et le plus grossier, s'en vont pieds nus pour appeler les hommes à veiller à leur salut et les interpelle dans des diatribes dont la violence est connue, ces gens reprennent de fait un mode de comportement qui est le mode de comportement cynique. Les franciscains, avec leur dépouillement, leur errance, leur pauvreté, leur mendicité, sont bien, jusqu'à un certain point, les cyniques de la chrétienté médiévale. Quant aux dominicains, eh bien, vous savez qu'ils s'appellent eux-mêmes les dominicanes, les chiens du Seigneur, et ce n'est vraisemblablement qu'a posteriori que l'on a fait le rapprochement avec le cynisme antique, mais de fait, c'est bien ce modèle-là, transmis à travers le christianisme, qui se trouve réactivé. On trouverait aussi bien d'autres exemples dans des mouvements plus ou moins hérétiques qui ont fleuri et qui se sont développés tout au long du Moyen-Âge. Quand, par exemple, vous lisez la description de ce qu'était Robert d'Arbrissel, ce inspirateur spirituel qui a été très important dans l'ouest de la France, en Anjou et Touraine à la fin du XIe siècle, eh bien, la description de Robert d'Arbrissel est celle-ci. Vêtu de haillons, il allait pieds nus d'une bourgade à l'autre, combattant la démoralisation du clergé et appelant tous les chrétiens à faire acte de pénitence. Ou encore dans le mouvement vaudois, vous trouvez cette description qui est celle-ci. Ceux-ci n'ont aucun domicile fixe. Ils circulent deux par deux, tant quam apostolii comme les apôtres, nudi, nudum, Christum sequentes, suivant nu la nudité du Christ. Et cette nudité, ce thème, suivre nu la nudité du Christ ou suivre nu la nudité de la croix, est un des thèmes qui a été extrêmement important dans toute cette spiritualité chrétienne et qui, là aussi, se réfère au moins implicitement à ce qu'a été cette fameuse nudité cynique, avec sa double valeur d'être un mode de vie de dépouillement complet et en même temps la manifestation en pleine nudité de ce qu'est la vérité du monde et de la vie. Le choix de vie comme scandale de la vérité, le dépouillement de la vie comme manière de constituer dans le corps même le théâtre visible de la vérité, ce choix de vie semble avoir été tout au long de l'histoire du christianisme, non seulement un thème, mais une pratique qui a été particulièrement vive, intense, forte dans tous les efforts de réforme qui se sont opposés à l'Église, à ses institutions, à son enrichissement, à son relâchement des mœurs. Et il y a eu tout un cynisme chrétien, tout un cynisme anti-institutionnel, tout un cynisme, que je dirais, anti-ecclésiastique, dont les formes et les traces encore vivantes étaient sensibles à la veille de la réforme, pendant la réforme, à l'intérieur même de la réforme protestante ou même de la contre-réforme catholique. Bon, il y aurait donc là, si vous voulez, toute cette longue histoire du cynisme chrétien qui pourrait être faite. Deuxièmement, je crois que ce qui serait intéressant aussi, c'est de voir, alors, en se plaçant plus près de nous, d'analyser un autre support de ce qu'a été le mode d'être cynique, ou si vous voulez, le cynisme entendu comme forme de vie dans le scandale de la vérité. Et là, on le trouverait non plus dans les institutions et les pratiques religieuses, mais dans les pratiques politiques. Et là, bien entendu, je pense au mouvement révolutionnaire ou du moins à certains de ces mouvements révolutionnaires, dont vous savez bien d'ailleurs qu'ils ont fait beaucoup d'emprunts aux différentes formes orthodoxes ou non de la spiritualité chrétienne. Le cynisme, l'idée d'un mode de vie qui serait la manifestation irruptive, violente, scandaleuse de la vérité, fait partie, et a fait partie, de la pratique révolutionnaire et des formes qui ont été prises par les mouvements révolutionnaires au long du XIXe siècle. La révolution dans le monde européen moderne n'a pas été, c'est un fait qui est connu, et je crois qu'on en avait parlé l'an dernier, la révolution du XIXe siècle européen n'a pas été simplement un projet politique, elle a été aussi une forme de vie. Et plus précisément, elle a fonctionné comme un principe déterminant un certain mode de vie. Et si vous voulez appeler par commodité militantisme la manière dont a été définie, caractérisée, organisée, réglée la vie comme activité révolutionnaire ou l'activité révolutionnaire comme vie, on peut dire, je crois, que le militantisme a pris dans l'Europe du XIXe siècle et du XXe siècle, militantisme comme vie révolutionnaire, comme vie consacrée totalement ou partiellement à la révolution, il a pris, je crois, trois grandes formes. Deux surtout sont connues, mais je m'intéresserai à la troisième. Celles qui sont connues, eh bien, c'est, si vous voulez, la plus ancienne et la plus récente, la vie révolutionnaire dans la forme de la socialité du secret. La vie révolutionnaire dans la société secrète, association, complot contre la société présente et visible, constitution d'une socialité invisible ordonnée à un principe, un objectif millénariste, chose comme ça. Bon, vous avez ce côté-là de la vie révolutionnaire qui a été évidemment très important au début du XIXe siècle. Deuxièmement, si vous voulez, à l'autre extrémité, vous avez le militantisme non plus dans la forme de la socialité secrète, mais le militantisme dans la forme de l'organisation visible, reconnue, instituée, qui cherche à faire valoir ses objectifs et sa dynamique dans le champ social et politique. C'est, si vous voulez, le militantisme tel qu'il apparaît, alors non plus, le militantisme non plus se cachant dans la socialité secrète, mais apparaissant, se faisant reconnaître dans des organisations syndicales ou des partis politiques à fonction révolutionnaire. Bon, ça. Et puis, il y a une troisième façon d'être militant, un troisième mode d'être militant, qui est important aussi, le militantisme comme témoignage par la vie. Témoignage par la vie sous la forme d'un style d'existence. Et ce style d'existence, propre au militantisme révolutionnaire et assurant le témoignage par la vie, eh bien, ce style est en rupture, doit être en rupture avec les conventions, les habitudes, les valeurs de la société, et il doit manifester directement par sa forme visible, par sa pratique constante et son existence immédiate. Il doit manifester la possibilité concrète et la valeur évidente d'une autre vie qui est la vraie vie. Et vous retrouvez là encore, je crois, tout à fait au centre de l'expérience révolutionnaire, de la vie révolutionnaire, du militantisme révolutionnaire, ce thème si fondamental, si en même temps si énigmatique et si intéressant de la vraie vie. Cette vraie vie dont le problème a été posé par Socrate déjà et dont la thématique n'a pas cessé, je crois, de parcourir toute la vie occidentale. Eh bien, la vie révolutionnaire, la vie comme activité révolutionnaire, et là, je crois, eu tous ces trois aspects, la socialité secrète, l'organisation instituée, et puis le témoignage par la vie, le témoignage de la vraie vie par la vie elle-même. Ces trois aspects du militantisme révolutionnaire. Le secret, l'organisation et le style d'existence. La socialité secrète, l'organisation et le style. Ces trois aspects du militantisme révolutionnaire ont, je crois, été constamment présents au XIXe siècle, mais évidemment, ils n'ont pas eu tous ni toujours la même importance. Et on pourrait dire schématiquement qu'ils ont été tour à tour dominants, et que l'aspect de la socialité secrète a dominé clairement les mouvements révolutionnaires au début du XIXe siècle. L'aspect organisation est devenu essentiel dans le dernier tiers du XIXe siècle avec l'institutionnalisation des partis politiques et des syndicats, et que l'aspect du témoignage par la vie, l'aspect du scandale de la vérité, de la vie révolutionnaire comme scandale de la vérité, eh bien cet aspect a été dominant beaucoup plus dans les mouvements qui sont en gros ceux du milieu du XIXe siècle. Alors Dostoïevski, bien sûr, serait à étudier, et avec Dostoïevski, le nihilisme russe, et après le nihilisme russe, l'anarchisme européen et américain, et également le problème du terrorisme et la manière dont l'anarchisme et le terrorisme comme pratique de la vie jusqu'à la mort pour la vérité. La bombe qui tue même celui qui la pose apparaît comme une sorte de passage, à la limite, passage dramatique ou délirant, si vous voulez, à la limite, de ce courage pour la vérité qui avait été posé par les Grecs, par la philosophie grecque, comme un des principes fondamentaux de la vie de vérité. Aller à la vérité, manifester la vérité, faire éclater la vérité jusqu'à perdre la vie ou faire couler le sang des autres, c'est bien quelque chose dont vous voyez, on retrouve la longue filiation à travers la pensée européenne. Bon, mais quand je dis que cet aspect du témoignage par la vie a été dominant au XIXe siècle, qu'on le trouve surtout dans ces mouvements qui vont du nihilisme à l'anarchisme ou au terrorisme, je ne veux pas dire pour autant que cet aspect a tout à fait disparu et qu'il n'a été qu'une figure historique dans l'histoire du révolutionnarisme européen. En fait, d'abord, on voit sans cesse ressurgir ce problème de la vie comme scandale de la vérité. Vous le voyez réapparaître assez constamment, problème du style de vie révolutionnaire, si vous voulez, dans ce qu'on peut appeler le gauchisme. Le gauchisme comme tendance permanente à l'intérieur de la pensée et du projet révolutionnaire européen, cette résurgence du gauchisme se fait toujours et s'est toujours fait en prenant appui non pas sur la dimension de l'organisation, mais sur cette dimension du militantisme qui est soit la socialité secrète, soit le style de vie. Et quelquefois le paradoxe d'une socialité secrète qui se manifeste et se rend visible par des formes de vie scandaleuses. Mais il ne faudrait d'ailleurs pas croire que là où le révolutionnarisme prend la forme de l'organisation en partie politique, la dimension du secret et la dimension du style de vie ou de la vie comme scandale de la vérité a complètement disparu. Alors là, il faudrait faire évidemment une analyse précise de ce qu'ont été les partis, a été le parti révolutionnaire en France, parti socialiste et parti communiste. Et là, ce serait intéressant de voir comment dans le parti communiste s'est posé le problème du style de vie, comment il s'est posé dans les années 1920, comment petit à petit il a été transformé, élaboré, modifié et finalement inversé, puisqu'on arrive à ce résultat paradoxal, mais qui ne fait en un sens que confirmer l'importance du style de vie et de la manifestation de la vérité dans la vie militante, dans la situation actuelle. Puisque dans la situation actuelle, on arrive à ceci, c'est que ont été d'une part bannis toutes les formes de tous les styles de vie qui pourraient avoir la valeur d'une manifestation scandaleuse, d'une vérité inacceptable, mais le thème du style de vie reste tout de même absolument important dans le militantisme du parti communiste français, mais sous la forme de l'injonction en quelque sorte inversée d'avoir à reprendre dans son style de vie, d'avoir à reprendre et à faire valoir obstinément et visiblement toutes les valeurs reçues, tous les comportements les plus habituels et les schémas de conduite les plus traditionnels. De sorte que le scandale de la vie révolutionnaire, comme forme de vie qui, en rupture avec toute vie acceptée, fait apparaître la vérité même, témoigne pour la vérité, eh bien, s'inverse maintenant dans ces structures institutionnelles du Parti communiste français comme la mise en œuvre des valeurs reçues, des comportements habituels, des schémas de conduite traditionnels, en opposition avec ce qui serait la décadence de la bourgeoisie ou la folie gauchiste. Bon, enfin voilà, on imagine assez bien ce que serait cette analyse tout de même importante à faire du style de vie dans les mouvements révolutionnaires européens. Et autant que je sache, ça n'a jamais été fait. Si vous voulez, en gros, se sont juxtaposés, opposés l'idée d'un cynisme de la vie révolutionnaire comme scandale d'une vérité inacceptable, et comment ceci s'est opposé à la définition d'une conformité d'existence comme condition pour le militantisme dans des partis qui se disent révolutionnaires. Bon, c'est un autre minute. Il y a eu, je crois, un troisième grand véhicule du cynisme dans la culture européenne. Les mouvements religieux, donc, tout au long du Moyen-Âge et pendant fort longtemps, la pratique politique depuis le XIXe siècle, et il me semble qu'il y a un troisième véhicule du cynisme ou du problème, du thème, du mode de vie comme scandale de la vérité, et on le trouverait dans l'art. Et là encore, l'histoire serait très longue et très complexe. Il faudrait sans doute remonter très loin, parce que aussi clairement affirmée, aussi violente qu'ait été dans l'Antiquité l'opposition du cynisme aux différentes règles et aux différentes valeurs, règles de conduite et valeurs culturelles et sociales, il y a eu dans l'Antiquité un art cynique et une littérature cynique. La satire, la comédie ont été souvent traversées de thèmes cyniques, et mieux encore, elles ont, jusqu'à un certain point, constitué un lieu privilégié d'expression pour les thèmes cyniques. Dans l'Europe médiévale et chrétienne, il y aurait sans doute à considérer tout un aspect de la littérature comme étant une sorte d'art cynique. Les fabliaux en relèveraient sans doute, ainsi que toute cette littérature qui a été étudiée par Bakhtine, lequel l'a référé surtout à la fête et au carnaval, mais qui, je pense aussi, relève certainement de cette manifestation de la vie cynique, problème des rapports entre la fête et la vie cynique. La vie à l'état nu, la vie violente, la vie qui scandaleusement manifeste la vérité. Vous voyez qu'on recouperait là beaucoup de thèmes qui touchent au carnaval et à la pratique carnavalesque. Mais je crois que c'est surtout dans l'art moderne que la question du cynisme devient singulièrement importante. Que l'art moderne ait été le véhicule, et soit encore pour nous, le véhicule du mode d'être cynique, soit encore le véhicule de ce principe de la mise en rapport du style de vie et de la manifestation de la vérité, je crois que ça s'est fait de deux façons. Premièrement, avec l'apparition de quelque chose qui est tout à fait singulier dans la culture européenne à la fin du XVIIIe siècle, au cours du XIXe siècle, je sais, tout ça, encore une fois, ça a été étudié. L'apparition de la vie artiste. Je pense par là à l'idée, je crois moderne, que l'artiste, en tant qu'artiste, non seulement a et doit avoir une vie singulière qui ne peut pas être réduite tout à fait aux dimensions et aux normes ordinaires, ça au fond c'était une idée qui était déjà tout à fait acquise, il suffirait par exemple de lire la vie des peintres de Vasari, de lire l'autobiographie de Benvenuto Cellini, et là vous voyez très très nettement, très très facilement admise cette idée que l'artiste en tant qu'artiste ne peut pas avoir une vie tout à fait semblable à celle des autres, n'est pas tout à fait commensurable à celle des autres. Mais il y a quelque chose de nouveau, de différent, je crois, par rapport à ce qu'on pouvait trouver à la Renaissance, par rapport à ce qu'on pouvait trouver chez Vasari, quelque chose qui apparaît donc fin 18e, début 19e, c'est l'idée que la vie de l'artiste doit, dans la forme même qu'elle prend, constituer un certain témoignage de ce qu'est l'art en sa vérité. Non seulement la vie de l'artiste doit être suffisamment singulière pour qu'il puisse créer son œuvre, mais sa vie doit être, en quelque sorte, une manifestation de l'art lui-même dans sa vérité. Le thème d'une vie artiste, qui a été si important tout au long alors du XIXe siècle, repose au fond sur deux principes. Premièrement, que l'art est capable de donner à l'existence une forme qui est en rupture avec tout autre, et une forme qui est celle de la vraie vie. Et puis, autre principe, que la vie en retour, si elle a bien la forme de la vraie vie, est la caution que toute œuvre qui prend racine en elle et à partir d'elle, appartient bien à la dynastie et au domaine de l'art. Donc je crois qu'avec cette idée de la vie artiste comme condition de l'œuvre d'art, comme authentification de l'œuvre d'art, comme œuvre d'art elle-même, cette idée de la vie artiste est une manière de reprendre sous un autre jour, sous un autre profil, avec d'autres formes bien sûr, ce principe cynique de la vie comme manifestation de rupture, comme manifestation de rupture scandaleuse, par où la vérité se fait jour, se manifeste, prend corps. Je crois que ce n'est pas tout, et qu'il y a une autre raison pour laquelle l'art, dans le monde moderne, a bien été le véhicule du cynisme, c'est cette idée que l'art lui-même, qu'il s'agisse de la littérature, de la peinture, de la musique, doit établir au réel un rapport qui n'est plus de l'ordre de l'ornementation, qui n'est plus de l'ordre de l'imitation, qui n'est plus de l'ordre de l'ornementation, mais qui est de l'ordre de la mise à nu, du démasquage, du décapage, de l'excavation, de la réduction violente à l'élémentaire de l'existence. Cette pratique de l'art comme mise à nu et réduction à l'élémentaire de l'existence est quelque chose, je crois, qui se marque d'une façon de plus en plus sensible à partir du XIXe siècle, à partir sans doute du milieu du XIXe siècle. L'art, Baudelaire, Flaubert, Manet, comme vous voudrez, l'art se constitue comme lieu d'irruption de l'en dessous, de l'en bas, de ce qui, dans une culture, n'a pas droit, ou du moins n'a pas de possibilité d'expression. Et dans cette mesure-là, il y a un anti-platonisme de l'art moderne qui devient très sensible. Si vous avez vu l'exposition Manet cet hiver, ça éclate. Il y a un anti-platonisme de l'art moderne qui a été le grand scandale de Manet et qui est, je crois, la tendance profonde, qui n'est pas la caractérisation de tout art possible actuellement, mais qui a été une tendance profonde que vous retrouvez de Manet jusqu'à Francis Bacon, si vous voulez, que vous trouvez de Baudelaire jusqu'à Beckett, ou jusqu'à Burroughs, etc. Bon. Anti-platonisme, l'art comme lieu d'irruption de l'élémentaire mise à nu de l'existence, et par là même, l'art établi à la culture, établi aux normes sociales, aux valeurs rejetées et refusées. Il y a une sorte de permanent cynisme à l'égard de tout art acquis dans toute forme d'art nouvelle. Et c'est ce qu'on pourrait appeler le caractère anti-aristotélicien de l'art moderne. L'art moderne anti-platonicien, anti-aristotélicien, l'art moderne comme réduction et mise à nu de l'élémentaire de l'existence et refus, rejet perpétuel de toute forme déjà acquise, cet art moderne sous ces deux aspects a une fonction que l'on pourrait dire essentiellement anti-culturelle. Il y a à opposer au consensus de la culture le courage de l'art dans sa vérité barbare. L'art moderne, c'est le cynisme dans la culture, c'est le cynisme de la culture retourné contre elle-même. Et je crois que si ce n'est pas simplement dans l'art, c'est dans l'art surtout que se concentrent dans le monde moderne, dans notre monde à nous, les formes les plus intenses d'un dire vrai qui a le courage de prendre le risque de blesser. Et dans cette mesure-là, je crois qu'on pourrait faire une histoire du mode cynique, de la pratique cynique, du cynisme comme mode de vie lié à une manifestation de la vérité. On pourrait le faire à propos de l'art moderne, comme on peut le faire à propos des mouvements révolutionnaires, et comme on a pu le faire à propos de la spiritualité chrétienne. Bon, pardonnez ce survol, c'est des notations comme ça serait du travail possible, on reviendra la prochaine fois à des choses plus sérieuses sur le cynisme antique. Voilà, merci.